Xavier Delaporte, bonjour. Vous voulez nous parler ce matin de l'Internet interespèce.
Oui, et bonjour à tous. Et à ce sujet, je voudrais commencer par un mea culpa. Il y a plus de 2 ans, sur cette même antenne, je m'étais un peu moqué de cette initiative qui venait de voir le jour sous le nom de Internet interespèce. Alors, comme il est possible que tout le monde n'ait pas gardé en mémoire ces moqueries, c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte, je me permets de rappeler de quoi il s'agissait. L'Internet interespèce est un projet très simple. Après l'Internet reliant les ordinateurs, après celui reliant les objets qui est en train d'apparaître, il faut créer un Internet reliant les espèces. Car maintenant que la science nous a appris que les animaux étaient sensibles, intelligents, dotés de culture et même de langage complexe, et cela même parmi les espèces les plus méprisées, je pense notamment aux chèvres que j'aime beaucoup, il faut non seulement continuer de développer...
Comment ? Non, ça fait rigoler.
Je peux vous parler des chèvres pendant une demi-heure.
J'adore les chèvres aussi. Okay.
Ça fait beaucoup rire.
Donc il faut non seulement continuer de développer la connaissance que nous avons de la cognition animale, mais aussi utiliser Internet pour donner plus de culture aux animaux captifs et faciliter la communication entre les espèces. En gros, dit ce projet, il faut que les humains ne soient plus les seuls sur Internet. Ce projet a été soutenu par des personnalités éminentes, Diana Reiss, une chercheuse reconnue en sciences cognitives et spécialiste des dauphins, Vinton Cerf, un des pères de l'Internet récompensé par le prix Turing en 2004, Neil Gershenfeld, qui dirige un des centres du Massachusetts Institute of Technology, et Peter Gabriel, Mathieu, le chanteur qui a appris à des bonobos à l'accompagner au piano.
Non,
je ne sais pas si ça en dit plus sur les bonobos ou sur la musique de Gabriel Adrien, mais bon, c'est un détail. Et je confesse donc avoir porté alors un regard assez narquois sur cette initiative. Or, je veux y revenir ce matin, on dit au milieu de la chronique, parce que mon regard a changé. Non qu'en 2 ans, le projet est beaucoup avancé, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant à ce sujet, si ce n'est un compte Facebook portant ce nom de Internet interespèce. Même ce compte semble mériter notre intérêt. Pourquoi ? À première vue, on n'y trouve que des informations concernant les animaux et en particulier beaucoup de vidéos qui, si on les regarde vite, pourraient donner l'impression de ressortir de ce goût que l'Internet a pour les vidéos mignonnes d'animaux.
Oui, parce que ça, c'est pas spécifique.
Non, mais vous allez voir. Vous allez voir. On y voit par exemple un chien qui imite les positions de yoga de sa maîtresse. C'est hallucinant. On y voit aussi un éléphant surgissant. Alors, il semblerait que ce soit une éléphante, mais j'avoue de ne pas être capable comme ça de voir la différence à distance. Sur une route d'Asie, donc.
On vous expliquera la différence.
Il bloque la circulation. Non, mais je la vois pas, mais je la connais. Et bloquant la circulation, donc, pour permettre à son groupe, et notamment à ses petits, de traverser la route, etc. Sauf que ces vidéos me font penser au bouleversement qu'ont connu ces dernières décennies les études du comportement animal. Pendant longtemps, les éthologues se sont concentrés sur des comportements d'animaux qu'ils voyaient se répéter, laissant de côté ce qu'on appelle l'anecdote, c'est-à-dire des comportements exceptionnels, observables rarement ou chez un seul membre d'un groupe animal. Or, depuis quelque temps, les éthologues, parallèlement à la prise en considération de l'animal en tant qu'individu, avec son histoire propre, ses conduites propres, ont appris à donner donc une importance croissante à ces anecdotes, car elles sont la preuve de l'individualité animale. Et que recensent toutes ces vidéos que l'on trouve sur ce compte et ailleurs dans les réseaux ? Eh bien, elles recensent des anecdotes. Et elle diffuse manifestement dans un Internet qui en est très friand. Elle participe donc, même sans le vouloir, à la reconnaissance d'un acquis scientifique sous les airs de la mignonnerie. Bien sûr, c'est intéressant. Ça aide peut-être à un rapport plus intelligent aux animaux, mais ça ne dessine pas pour autant l'émergence d'un Internet interespèce d'un point de vue technique. Mais là, il y a autre chose. J'ai découvert la vitalité d'une discipline que j'ignorais. C'est l'interaction animal-ordinateur. Et ouais, c'est-à-dire de même qu'il y a un champ universitaire qui s'appelle l'interaction homme-machine, il y a un champ universitaire qui s'appelle interaction animal-ordinateur. Et d'ailleurs, ses représentants sont invités à se retrouver lors d'un colloque international qui se déroulera, je le dis à tous parce qu'il faut y aller, hein, le 15 et 16 novembre en Angleterre, 3e colloque international du genre. Je sais que vous ne me libérerez pas pour y aller, mais j'aimerais pourtant.
Pas du tout.
Qu'est-ce qu'on y verra ?
On va faire ce qu'on peut.
On y verra des chercheurs qui réfléchissent à des machines qui puissent être utilisées par les animaux et donc à la fois nous en apprendre plus sur eux, mais aussi les faire participer à notre monde comme le désirait Gilles Boeuf. On y parlera donc des maisons intelligentes pour chiens, de jouets interactifs pour éléphants, développés par l'Université de Londres, ou de jeux pour chats et humains, hein, qui pourront plus jouer ensemble, développés par l'Université de Malmö et de 1000 autres choses. Alors peut-être peut-on voir là les premiers pas de cet Internet interespèce. Bon, alors, je ne dis pas que ça sauvera les espèces, ni même que cela permet
d'aider... Ça peut sauver Internet ?
Alors, peut-être l'Internet n'a pas besoin d'être sauvé. Ni même que cela permettra d'aider à la résolution de la catastrophe écologique en cours, notamment parce qu'il y a une contradiction et qu'est la consommation énergétique des technologies qu'a connaît très bien Fabrice Flippo pour y avoir consacré un livre. Mais quand même, je trouve que tout ça est absolument passionnant et joyeux, et donc je m'engage ici solennellement à ne plus me moquer de l'Internet interespèce, même quand ses promoteurs disent que construire un Internet interespèce, c'est le premier pas de la construction d'un Internet qui nous permettra de communiquer avec les aliens.
Ne vous moquez pas de ça, sinon vous allez faire un mea culpa dans 5 ans.
Quoi, elle est bien cette chute. Attendez.
Gilles Boeuf, je ne vous demanderai pas votre réaction au retournement de veste de mon camarade Xavier Delaporte, mais néanmoins, si vous avez un commentaire à ajouter...
Oui, bien sûr. C'est ce qu'il disait sur le... En fait, on a pris les chimpanzés sont les chimpanzés, les éléphants sont les éléphants, ça n'a pas de sens. Hein, vous avez des tas de copains que vous aimez et d'autres que vous n'aimez pas du tout. Ce n'est pas des copains d'ailleurs. Et ben, c'est pareil chez les animaux. Hein, un éléphant X est différent de l'éléphant Y et différent d'un autre. Ils ont une mémoire, ils communiquent. Un dauphin est très différent du dauphin d'à côté. Et c'est ça qui, depuis qu'on a pris ça en compte, et ces anecdotes que vous évoquiez sont essentielles pour faire ça. Juste pour terminer là-dessus, il y a un petit papier sorti cette semaine dans Nature où il montre comment des chimpanzés savent que vous trichez. Ouais. Et ils sont capables de prévoir le moment durant lequel vous allez tricher. Pas mal cette histoire-là quand même.
Bon, et les bonobos qui jouent du Peter Gabriel, vous y croyez?
Ça, j'ai pas assisté.
Vous êtes sceptique quand même.
Non, je vous enverrai une vidéo.
Mais on veut voir si elle est réalisée sans
Dali truc. Dali avait fait peindre des tableaux par des rhinocéros avec sa queue et puis des bestioles. Hein. Ça faisait des traits, de la peinture sur un fond. Hein.
Fabrice Flippo.
Oui, je voulais juste rajouter deux choses. C'est que, bon, des fois, on a l'impression que la science redécouvre ce que tout le monde, ce dont tout le monde s'est aperçu à partir du moment où ils fréquentent des animaux. À savoir que ils ont chacun une personnalité. Tout propriétaire de chien ou de chat ou tout éleveur le sait bien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment vivre avec la nature, puisque c'était le point qui était soulevé. C'est-à-dire comment l'éducation, toutes ces questions-là, comment les incarner dans la société. Je pense profondément qu'il n'est pas possible de. Ça peut pas rester cognitif. Il faut que ce soit quelque chose qui soit habité, c'est-à-dire un contact régulier avec tous ces non-humains, si on veut les appeler comme ça. Hein. Et bon, je suis pas très très persuadé qu'Internet soit un bon moyen. Par contre, je suis sûr que effectivement, ça consomme énormément.